15. La limousine s'arrêta devant un immeuble doté d'un auvent vert. Un autre homme en costume bien coupé se tenait près de la porte. Les marches du perron étaient ceinturées par un ruban jaune. Dessus étaient imprimés des mots que Roland ne put déchiffrer.
Ça dit « scène de crime, ne pas pénétrer »,
lui dit Madame Tassenbaum.
Mais on dirait que c'est là depuis un moment. D'ordinaire, je crois qu'ils retirent le ruban quand ils ont fini avec leurs appareils photos, leurs petites brosses et tout ça. Vous devez avoir des amis puissants.
Roland était en effet persuadé que le ruban était en place depuis un moment. 3 semaines, grosso modo. Depuis que Jake et le père Callahan avaient fait leur entrée au Cochon du Sud, certains de courir à leur mort, mais allant tout de même de l'avant. Il vit qu'il restait une petite flaque au fond du verre d'Irène, et il l'avala, faisant la grimace en sentant la chaleur de l'alcool, mais se réjouissant de la brûlure.
« Ça va mieux ?»
demanda-t-elle. « Si fait, merci. » Il réajusta sur son épaule le sac contenant les orizas et sortit de la voiture, ôté sur ses talons. Irène prit quelques secondes pour parler au chauffeur, qui semblait avoir réussi à régler ses histoires de voyage. Roland se baissa pour passer sous le ruban, puis demeura un instant où il était, à écouter le vacarme et le chahut de la ville, en ce jour radieux de juin, en savourant l'effervescence adolescente. Il ne verrait plus d'autres villes. Il était au moins quasiment certain de ça. Et c'était peut-être aussi bien. Il avait comme l'intuition qu'après New York, toutes les autres lui paraîtraient un cran en dessous. Le garde, de toute évidence un agent au service de la Ted Corporation, pas un garde du guet de la ville, le rejoignit sur le trottoir. « Si vous voulez entrer, monsieur, il faudra que vous me montriez quelque chose d'abord. » Roland extirpa une nouvelle fois son ceinturon du sac, en déroula le holster et exhiba l'arme de son père. Cette fois, il ne proposa pas de la faire soupeser au garde, et ce gentilhomme n'en fit pas la demande. Il se contenta d'examiner la gravure sur le canon. Puis, il hocha la tête d'un air respectueux et fit un pas en arrière, dégageant le passage. « Je vais déverrouiller la porte. » Une fois à l'intérieur, vous êtes seul. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Roland, qui avait passé l'essentiel de sa vie seul, fit oui de la tête. Avant qu'il ait pu bouger, Irène le prit par le coude, le fit pivoter et lui passa les bras autour du cou. Elle s'était aussi acheté une paire de chaussures à talons plats et elle n'eut qu'à pencher légèrement la tête en arrière pour regarder le pistolero droit dans les yeux.
« Fais attention à toi, cow-boy. »
Elle l'embrassa furtivement sur la bouche, le baiser d'une amie, puis s'agenouilla pour caresser Othé.
« Et fais attention au petit cow-boy aussi. »
« Je ferai de mon mieux. Tu te souviendras de ta promesse pour la tombe de Jake ?»«
Une rose, » dit-elle. « Oui, je m'en souviendrai. »
« Grand merci. »
Il la regarda encore quelques instants, puis écouta sa petite voix intérieure, le chant de son intuition, et prit une décision. Du sac contenant les orizas, il sortit l'enveloppe du livre épais, celui que Susanna ne lui lirait jamais au bord du chemin, finalement. Il le déposa entre les mains d'Irène. Elle l'examina, les sourcils froncés.
« Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? « On dirait un livre ?»«
Oui, là. Un livre de Stephen King. Insomnie, il s'appelle. As-tu lu celui-ci »
Elle sourit légèrement.
« Nenny, je ne l'ai pas lu. L'as-tu lu toi-même ?»«
Non. Et je ne le lirai pas. Il me paraît piégé. »«
Je ne comprends pas.
Il me paraît fragile. »
Il pensait à Veru Canyon, à Meris. Elle soupesa l'enveloppe.
À moi, il me paraît sacrément lourd. Un vrai pavé de Stephen King, pas de doute. Il vend au gramme et l'Amérique achète au kilo.
Roland ne sut que secouer la tête.
Peu importe, dit Irène. Je fais la maligne parce que cette bonne vieillerie n'est pas douée pour les au revoir. c'est comme ça depuis toujours. Tu veux que je garde ce truc, c'est ça?
Oui.
Ok. Peut-être que quand le grand Steve sortira de l'hôpital, je le lui ferai signer. Parce que selon moi, il me doit bien un autographe.
Ou un baiser, dit Roland en prenant un lui-même. Maintenant qu'il n'avait plus le livre entre les mains, il se sentait bizarrement plus léger, plus libre, plus en sécurité. Il l'attira contre lui et la serra dans ses bras. Irène Tassenbaum lui rendit son étreinte avec une intensité égale. Puis Roland la lâcha, se toucha délicatement le front du poing et se tourna vers la porte du cochon du sud. Il l'ouvrit et se glissa à l'intérieur sans se retourner. Il avait constaté que c'était toujours plus facile. 16. Le poteau chromé qui se trouvait à l'extérieur le soir où Jake et le père Callahan étaient venus ici avait été transféré dans le hall, par sécurité. Roland buta dessus, mais ses réflexes étaient plus rapides que jamais et il s'en empara avant qu'il ne basculât. Il lut lentement l'enseigne accrochée au bout, épelant les mots à voix haute et ne comprenant vraiment le sens que d'un seul « fermé ». Les flambeaux électriques orange qui avaient éclairé la salle à manger étaient éteints, mais les lumières d'urgence sur batterie étaient allumées, emplissant la zone au-delà du hall et du bar d'un éclat blanc aveuglant. À gauche, il vit une arcade et une autre salle derrière. Là, pas de lumière blafarde. Dans cette partie du cochon du sud, il faisait noir comme dans un four. La lumière provenant de la salle à manger principale semblait ramper sur environ 1,50 m, juste assez pour illuminer l'extrémité d'une longue table, puis s'interrompait brutalement. La tapisserie dont avait parlé Jake avait disparu. Elle se trouvait peut-être dans le commissariat de police le plus proche, étiquetée comme pièce à conviction, ou bien peut-être avait-elle rejoint le cabinet de curiosité d'un collectionneur farfelu. Roland respirait l'arôme éventé de la viande grillée, diffus et déplaisant. Dans la salle à manger principale, deux ou trois tables étaient renversées. Roland aperçut des taches sur la moquette rouge. Plusieurs auréoles sombres qui étaient sans doute du sang, et une matière jaune aux allures de moutarde qui était autre chose.
Repousse-la !
Et la voix du père, comme un écho lointain à l'oreille de Roland, sans la moindre peur.
Je n'ai pas besoin de mettre ma foi à l'épreuve.
Le père. Encore un ami qu'il avait laissé derrière lui. Roland repensa brièvement à la figurine en forme de tortue cachée dans la doublure du sac qu'ils avaient trouvé dans le terrain vague, mais il ne perdit pas de temps à la chercher. Si elle se trouvait ici, il se disait qu'il en aurait sans doute entendu la voix, l'appelant dans le silence. Non. Quiconque avait récupéré la tapisserie des chevaliers vampires au banquet avait sans doute raflé également la scolpata, sans savoir de quoi il s'agissait, sinon quelque chose d'étrange, détaché du monde. Dommage, elle aurait pu être bien utile. Le pistolero changea de décor, se faufilant prestement entre les tables, ôté sur ses talons. 17. Il s'arrêta dans la cuisine le temps de se demander ce qu'en avaient pensé les gardes du guet de la police de New York. Il aurait parié qu'il n'avait jamais vu une chose pareille dans cette ville de machines bien rodées et de lumières artificielles. Dans cette cuisine, Axe, le cuisinier qu'il se rappelait le mieux de son enfance, et sous les pieds du cadavre duquel il avait avec son meilleur ami répandu des miettes de pain pour les oiseaux, se serait senti chez lui. Les fourneaux étaient éteints depuis des semaines, mais l'odeur de la viande qui avait rôti ici, variété qu'on appelait le porc long, était prégnante et dégoûtante. Il aperçut d'autres traces de la bataille. Ici aussi, une casserole encroûtée de crasse renversée sur les carreaux verts, du sang cuit et noir sur l'un des poêles. Et Roland s'imaginait Jake en plein combat traversant la cuisine.
Pas paniqué, non, pas lui.
Lui avait pris le temps de demander des informations au marmiton.
Comment t'appelles-tu, Louchon ?
Joshabim, fils d'Ossa.
Jack leur avait raconté cette partie de son histoire, mais ce n'était pas le souvenir qui murmurait en cet instant aux oreilles de Roland. C'était les voix des morts. Il avait déjà entendu des voix comme celle-là auparavant, et il savait les reconnaître. 18. Otté reprit la piste comme il l'avait fait lors de sa dernière visite dans ces lieux. Il sentait l'odeur d'Ake, faible et triste. Ake avait repris sa route à présent, mais pas très loin. Il était bon, Ake était bon. Ake attendrait, et le moment venu, quand le travail que lui avait confié Ake serait terminé, Otté le rattraperait et le rejoindrait, et il serait comme avant. Il avait l'odorat fin. Il chercherait une piste plus récente que celle-ci quand l'heure viendrait de chercher. Ake lui avait sauvé la vie, ce qui n'était pas si important. Ake l'avait sauvé de la solitude et de la honte, après qu'Otté s'était fait bannir par le tête de son espèce, et ça, c'était important. En attendant, il avait un travail à finir. Il conduisit l'homme Olan dans l'office. La porte secrète menant à l'escalier s'était refermée, mais l'homme Olan chercha à tâtons au milieu des étagères recouvertes de boîtes de conserve jusqu'à ce qu'il ait trouvé le moyen de l'ouvrir. Tout était tel qu'il l'avait laissé. Le grand escalier qui descendait sous la lueur blafarde des ampoules au plafond, le relent moisi qui saturait l'air. Il sentait les rats qui grouillaient dans le mur. Des rats et d'autres choses aussi, dont des insectes comme ceux qu'il avait tués la dernière fois qu'Ake et lui étaient venus. Ça avait été un bon moment, et il serait ravi d'en coincer encore quelques-uns s'il en croisait. Otté espérait que les insectes se montreraient, qu'ils viendraient le provoquer, mais bien sûr ils n'en firent rien. Ils avaient peur. Et ils avaient raison d'avoir peur, car son espèce à lui avait de tout temps déclaré la guerre à la leur. Il se mit à descendre les marches, l'homme Olan derrière lui. 19. Ils passèrent devant le kiosque déserté avec ses panneaux jaunis par le temps. Souvenir de New York, dernière chance et visite du 11 septembre 2001. Et 15 minutes plus tard, Roland consulta sa nouvelle montre pour être bien sûr de l'heure. Ils débouchèrent sur une portion de couloir jonchée de bris de verre. Roland prit Otté dans ses bras pour éviter qu'il se coupe les coussinets. Sur les deux murs, il vit les débris de sorte d'écoutilles en verre. En regardant à l'intérieur, il trouva un mécanisme compliqué. Ils avaient bien failli piéger Jake, ici même, le prendre dans les filets d'une sorte de piège mental. Mais une fois encore, Jake avait eu assez d'intelligence et de courage pour en réchapper.
Il a survécu à tout, sauf à un homme trop négligent et trop stupide pour conduire simplement son Buka sur une route déserte, pensa Roland avec amertume. Et l'homme qui l'a amené là... Cet homme-là aussi.
C'est alors qu'Otté lui aboya quelque chose et Roland comprit subitement que, sous le coup de sa colère contre Brian Smith et contre lui-même, il serrait le petit bonhomme beaucoup trop fort.
« J'implore ton pardon, Otté, » dit-il en le reposant à terre.
Otté se remit à trottiner sans aucun commentaire, et peu de temps après, Roland arriva à proximité des cadavres éparpillés de ces raclures qui avaient harcelé son garçon depuis le cochon du Sud. Ici aussi, imprimé dans la poussière qui tapissait le sol de ce vieux couloir, il vit les traces qu'Eddie et lui avaient faites en arrivant. Et de nouveau, il entendit une voix fantôme, celle de l'homme qui menait les écumeurs.
« Je reconnais ton nom à ton visage, et ton visage à ta bouche.
C'est la même bouche que celle de ta mère qui a sucé John Farson avec tant de jubilation jusqu'à vomir son... »
Roland te retourna le corps du bout du pied. Un hume du nom de Flaherty, dont le pas avait dû truffer le crâne d'histoire de dragon, mais le pistolero n'en avait cure. Et il scruta le visage mort sur lequel se propageait déjà un voile de moisissure. À ses côtés gisait le taïn à tête d'hermine, dont l'ultime saillie avait été « Alors sois maudit, Charyuka ». Et au-delà des cadavres empilés de ces deux-là et de leurs comparses, se trouvait la porte qui l'emmènerait pour de bon loin du monde clé. À compter qu'elle soit toujours en état de marche. Othé s'en approcha et s'assit devant, observant Roland. Le bafouilleux haletait, mais son vieux rictus gentiment diabolique avait disparu. Roland rejoignit la porte à son tour et posa les mains contre le bois fantôme aux grains serrés. Du plus profond du bois, il sentit monter une vibration sourde et inégale. Cette porte fonctionnait encore, mais peut-être plus pour très longtemps. Il ferma les yeux et repensa à sa mère, penchée vers lui alors qu'il était dans son petit lit. Depuis combien de temps avait-il quitté le berceau ? Il ne se le rappelait pas, mais ce ne pouvait être depuis très longtemps. Le visage constellé des couleurs projetées par le vitrail de la chambre, Gabriel Deschênes devait plus tard mourir de ses mains qu'elle caressait avec tant de légèreté et de tendresse avec la paume de la sienne. Fille de Candor le Grand, épouse de Stephen, mère de Roland, elle lui chantait des berceuses, l'emmenant vers ces terres du rêve connues des enfants seuls. Petit oiseau, bébé adoré, amène donc ici ton panier. Va, cours, vole, et rapporte de quoi remplir ton panier.
J'ai voyagé si loin, se dit-il, les mains posées contre la porte de bois fantôme. J'ai voyagé si loin et blessé tellement de cœurs et d'âmes en chemin, blessé ou tué. Et ce que j'ai pu sauver l'a été par accident, et ne pourra jamais rien pour le salut de mon âme, si d'aventure j'en ai une. Pourtant une chose est sûre, je suis au début de ma dernière piste, et il n'est nul besoin que je la parcours seule, si Susanna accepte de m'accompagner. Il se peut qu'il reste de quoi remplir mon panier. Vol, dit Roland, et il rouvrit les yeux pour voir la porte s'ouvrir. Othé bondit lestement de l'autre côté, il entendit le hurlement strident du vide entre les mondes et passa la porte à son tour, la claquant derrière lui, toujours sans un regard en arrière.